Alors, on me dit que François Legault, donc, s'approche. Il va commencer son point de presse, donc, toujours accompagné d'Horacio Arruda, le grand patron de la santé publique du Québec, et la ministre Danielle Mécan, ministre de la Santé. Il est là.
La parole. Oui, bonjour tout le monde. On va commencer d'abord pour le bilan. On a 63 personnes actuellement qui sont infectées. Ça, c'est le décompte à 9 heures hier soir. Donc, si on compare avec 9 heures la journée précédente, c'est 22 cas de plus. Mais hier après-midi, je vous avais dit 50, là, parce que j'ai inclus des personnes durant la journée. Est-ce que tout le monde suit? Oui. OK. Donc, on est à 63. Si on compare avec 24 heures plus tôt, on a 22 de plus. Mais si on compare avec ce que je vous ai dit hier, on en a 13 de plus. Donc, on a 3500 personnes sont en investigation, donc en attente d'avoir les résultats, 3700 personnes qui ont reçu un résultat négatif. C'est important, là, le nombre de tests, c'est vraiment la priorité qu'on se donne à court terme, là, toute l'équipe, d'augmenter de façon très importante le nombre de tests. C'est ça la priorité, là, on veut passer de quelques centaines à quelques milliers de tests par jour. Donc, on va être capable là, de vraiment bien suivre dans les prochains jours. Et donc, il y a des personnes qui s'ajoutent. On a l'équipement. Les laboratoires sont prêts pour faire plusieurs milliers de tests par jour. Et on a maintenant 22 cliniques désignées. On va en ajouter 9. Donc, on va avoir 31 cliniques désignées pour faire les tests. Ça va nous permettre de faire des milliers de tests à chaque jour. Je veux, bien sûr, profiter de l'occasion de dire merci aux Québécois. D'abord, hier, j'ai demandé d'aller donner du sang. La réponse était extraordinaire, là, donc on était capable de combler la baisse qu'on avait vue. Il faut continuer à le faire. On a besoin de sang à tous les jours. Je comprends que les gens sont isolés, mais c'est important d'aller donner du sang. Même chose du côté des personnes qui ont de l'expérience ou de l'expertise en santé. On est rendu à 10 000 CV qu'on a reçus. On a fait un certain tri. On en a déjà 1800 pour qui on a envoyé personnes à des endroits spécifiques dans le réseau, donc ils vont pouvoir concrètement venir nous aider dans le réseau de la santé. Moi, je trouve que les Québécois sont vraiment fantastiques. Ce matin, j'ai rencontré les trois chefs de l'opposition. On a convenu ensemble d'adopter les crédits, le budget, certains projets de loi. Par exemple, il y avait des projets de loi qui touchaient aux pharmaciens, aux infirmières. Donc, on a adopté ces projets de loi-là et on ferme l'Assemblée nationale jusqu'au 21 avril. C'est possible qu'on décide de prolonger, mais pour l'instant, c'est jusqu'au 21 avril. On le fait pour deux raisons. D'abord, on est 125 personnes habituellement au Salon Bleu, donc il faut donner l'exemple. Il ne faut pas qu'il y ait de rassemblement, même de 10, 20, 30 personnes. Donc, on veut donner l'exemple. Deuxième raison, bien, on souhaite que les députés soient chacun dans leur circonscription pour répondre aux questions des citoyens. Puis là, on s'est donné un mécanisme pour être capable facilement, avec les députés puis les whips des différents partis, de répondre aux questions des citoyens via les députés et d'être capable aussi de recevoir des suggestions. Puis, sincèrement, on en reçoit des très bonnes suggestions. Puis, on est ouvert, là, les choses se passent très vite. J'essaie de ne pas en échapper, mais s'il y en a qui ont des idées, ils sont toujours le bienvenu. Je veux peut-être revenir un peu sur l'annonce qui a été faite un peu plus tôt aujourd'hui par le ministre des Finances, Éric Girard. Évidemment, il y a beaucoup de personnes puis d'entreprises qui vivent des problèmes de liquidité. Donc, on a accepté de reporter le dépôt des déclarations d'impôts des particuliers au 1er juin. Puis, tous les impôts et les acomptes provisionnels sont reportés au 31 juillet. Donc, ça va permettre là, ceux qui avaient un montant à payer, soit le 30 avril, soit un acompte provisionnel le 15 juin, vont être capables de retarder tous ces paiements-là jusqu'au 31 juillet. Il y a d'autres aides qui s'en viennent. Au cours des prochains jours, entre autres, Pierre Fitzgibbon va annoncer des mesures pour aider toutes les entreprises qui ont des problèmes de liquidité. On essaie de s'arrimer avec Ottawa, avec la BDC, pour que ça soit le plus simple possible pour les dirigeants, les entrepreneurs. Un autre groupe de personnes que je veux remercier. On a réussi en 48 heures à organiser des services de garde pour le personnel de la santé puis les services essentiels. La grande majorité des parents, donc, ont réussi à faire garder leur enfant. Si ce n'est pas le cas, là, on va ajuster dans les prochains jours. Donc, je veux remercier les éducatrices, les éducateurs. C'est très important. Bon, aujourd'hui, j'ai un message spécial à lancer aux jeunes. On me dit que les jeunes n'écoutent pas suffisamment les consignes, entre autres, concernant les rassemblements. Et puis pourtant, on a vécu des expériences en Corée du Sud et en Italie où les jeunes ont été des agents importants de propagation du virus. Bon. J'étais jeune moi-même. Je sais qu'il y a une période, à un moment donné, quand on est jeune, qu'on écoute moins les plus vieux. Mais là, c'est critique. C'est vraiment sérieux. Puis je veux lancer un message à tous les leaders jeunes, là, que ce soit les artistes, les sportifs. Là, vous allez probablement être meilleurs que moi pour lancer cet appel-là. Ça peut être, entre autres, par les médias sociaux. S'il vous plaît, dites aux jeunes au Québec de respecter les consignes. C'est pas le temps de faire des parties. C'est pas le temps de se rassembler. Il faut garder nos distances. Et donc, je fais un appel spécial aux jeunes. On va lancer une campagne aussi, le gouvernement. La campagne va s'appeler « Propager l'info ». C'est-à-dire, je me reprends. « Propage l'info, pas le virus ».« Propage l'info, pas le virus ». Donc, vous allez voir ça, là. J'invite nos artistes à être créatifs aussi, puis à trouver d'autres moyens de dire aux jeunes, là, passez le message, mais pas le virus. Donc, c'est mon message du jour pour les jeunes du Québec. Donc, je termine en revenant un peu sur les directives les plus importantes, là. Quand vous avez des symptômes, quand vous revenez de voyage, restez isolés chez vous pendant 24 heures. Puis là, je veux faire un appel spécial, parce que ça revient, là, aux employeurs. S'il vous plaît, là, c'est pas le temps de demander des billets du médecin. Les médecins ont d'autres choses à faire que de signer des billets pour le personnel qui doit s'isoler. Donc, je demande la compréhension de tout le monde. Malheureusement, on me dit aussi que certains employeurs refusent de donner le 14 jours à ceux qui reviennent de voyage. Encore une fois, je demande la compréhension des employeurs, là. C'est très important, c'est critique. Il faut donner le 14 jours à la maison. Puis évidemment, bien, je le répète, pour les jeunes puis les moins jeunes, là, pas de rassemblement. 10, 20, 30, peu importe le nombre, là, pas de rassemblement. Il faut tout faire pour éviter l'augmentation rapide du virus, le nombre de personnes infectées. Donc, je vous le dis, là, c'est très sérieux. Si on limite les rassemblements, puis c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, on est en train de sauver des vies. Donc, on a une grosse bataille devant nous, puis on est capable, si on se met tous ensemble, de la gagner, cette bataille-là. Merci.
Alors, si vous êtes prêts à prendre les questions, on va commencer avec Alain Laforêt, TVA.
Bonjour. Madame McCann, actuellement, vous avez dit hier que votre priorité, c'était le personnel soignant. Au CIUS de la Montérégie Centre, les employés, les médecins demandent de l'équipement de protection. Il n'y en a pas. On leur répond qu'il n'y en a pas.
Moi, ce que je peux vous dire, là, c'est que j'ai reçu l'état de situation sur l'équipement de protection, et il y en a. Alors, je vais m'assurer que les employés du CIUS de Montérégie-Centre aient ce qu'il faut. J'en prends note. Au sortir de la conférence de presse, je demande au sous-ministre de voir à la situation.
Donc, c'est pas normal pour vous?
Non. On a ce qu'il faut. Oui.
On a fait le point sur les inventaires là, de tous les équipements importants. Quand on regarde au Québec, là, on est correct pour des semaines. Donc, il n'y a pas de raison qu'en particulier dans un hôpital de Montérégie-Centre qui en manque.
Merci, Hugo Pilon-Larose.
C'était juste une précision, là, ça va aller très vite. Est-ce que vous êtes consciente actuellement qu'il y a des employés qui volent de l'équipement dans des hôpitaux, des masques, entre autres, pour se protéger ou protéger des membres de leur famille?
Bien, écoutez, on a pris des mesures il y a déjà un certain temps de mettre sous clé des équipements de protection comme les masques. Alors, encore une fois, on va resensibiliser le personnel, ces masques-là, et on a une utilisation, là, un algorithme pour utiliser ces masques-là. Il faut être très, très rigoureux dans l'utilisation. Donc ça, il ne faut pas que ça se produise. Ça sauve des vies et ça protège le personnel.
Juste vous dire, M. Laforêt, effectivement, j'ai entendu la même remarque que vous. Donc, il y a une question là, de sécurité policière. Donc, on est en train de regarder là, ce qu'on est capable de faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vol.
Toujours en vous limitant à une question, une sous-question, Hugo Pilon-Larose, La Presse.
À la vitesse à laquelle la pandémie se propage actuellement, avez-vous dans vos scénarios un plan pour limiter davantage les déplacements des gens, un peu comme ce qui se fait en France, là, où les forces de l'ordre sont interpellées pour aller voir les gens qui peuvent faire des attroupements, entre autres?
Bien, on n'est pas rendu là, mais oui, évidemment, ça fait partie des possibilités des prochains jours, des prochaines semaines. Je me fie beaucoup au docteur Arruda, on en discute à chaque matin. C'est certain là, qu'il y a d'autres mesures qui sont envisagées, mais pour l'instant, on pense que toutes les mesures qu'on annonce sont suffisantes.
Peut-être. C'est quoi le point de bascule lorsqu'on regarde l'évolution du nombre de cas? À partir de quel moment est-ce qu'on doit s'attendre justement à ce qu'il y ait des mesures plus musclées qui soient prises?
Bien, ça va être évalué au jour le jour selon la réponse de l'application des mesures qu'on met en place. Moi, je tiens à vous dire là, que je suis très fier de voir comment la majorité des entreprises prennent les devants, vont même plus loin que ce qu'on recommande. Mais il y a toujours dans une population ce qu'on appelle des gens qui vont rapidement réagir, d'autres qui vont être un peu plus lents, puis etc. Je pense qu'on n'est pas encore rendu à la coercition intensive. Par contre, il va y avoir, à la fois dans les affaires de communication, dans les interventions qui pourraient être faites sur le terrain, par le corps policier, mais aussi des travailleurs municipaux, etc., on est en train de discuter ça, du renforcement par rapport à ça. Et je pense aussi qu'il faut falloir que les gens s'éduquent les uns les autres et essaient d'éviter ces dix rassemblements-là qu'on parle. Je vous dirais qu'on sait ça de très près. On va le faire mesurer aussi pour être en mesure de voir, parce que si moi, disons que j'ai ordonné au nom de la ministre et du premier ministre des actions, puis qui sont appliquées à 25 ou 30 % le taux d'efficacité que je vais avoir va être moins grand que si 100 % des gens le font. On est très conscient qu'atteindre 100 % dans une population, c'est une note qui est parfaite. Si on veut avoir la médaille olympique d'or avec une note parfaite, donc vous savez que je veux faire. Mais moi, je veux rappeler aussi aux jeunes. Et puis, je suis un peu plus jeune, je pense, que le premier ministre, mais pas encore assez jeune, pour être le bon porte-parole pour les jeunes. Puis je pense que déjà, j'ai vu dans les médias sociaux, puis on est chanceux d'avoir les médias sociaux aussi, quelque part, parce qu'un jeune peut parler à un autre jeune en étant dans sa propre... Puis je peux vous dire, moi, si j'étais jeune... Moi, habituellement, ma mère me disait « sors dehors, etc., va t'amuser ». C'est assez rare qu'on dise aux gens de rester à l'intérieur devant les écrans. Mais là, maintenant, donc ça peut être à la mode, transitoirement, on peut le faire. Donc, j'invite les jeunes à utiliser les médias sociaux. Il y a plein de créativité qui peut être faite pour avoir quand même une vie pendant cette période-là. Et je pense que les campagnes, vous savez, quand on ordonne des fois, là, il y a des réactions inverses. On va monitorer la chose au jour le jour, on va prendre nos moyens. Puis moi, je vais me permettre, si vous me permettez, je ne l'ai jamais dit, il y a des anges gardiens qui ont le système de santé qui est là. Il y a aussi les gens de santé publique, qui sont mes collègues à travers les territoires, qui sont aussi des anges gardiens, qui vous préviennent souvent des épidémies, vous vous en rendez même pas compte. Je vais saluer mes collègues directeurs et toutes les équipes de santé publique qui actuellement sont au front pour faire la recherche de cas de contact. J'ai donné une grande réponse, mais moi, j'ai terminé pour aujourd'hui.
J'aimerais ajouter là-dessus que tout le monde doit suivre ces consignes-là. Même si on vit dans un village plus retiré, il faut que tout le monde suive. Il n'y a pas de bingo, il n'y a pas de rassemblement partout au Québec, tel qu'on a donné comme directive, parce qu'on est tous responsables. Puis on a des cas qui ont été infectés, qui sont dans des villages, effectivement, qui sont plus retirés. C'est pas dans les grands centres, nécessairement. Alors, on lance un appel à tous les Québécois pour faire la distanciation sociale.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
Monsieur Legault, peut-être même M. Arruda, la question pourrait peut-être s'adresser aux deux, mais on a vu qu'il y a beaucoup de touristes qui circulent au Québec. Il y en a à Québec, hier, qu'on a vu à plusieurs reprises dans les informations, etc. Il y en a à Montréal. Est-ce que vous pourriez demander ou exiger de ces touristes-là qu'ils soient confinés à leur hôtel, comme ça se fait dans d'autres pays? Les Philippines ont pris ces mesures-là. Les îles Canaries ont pris ces mesures-là. Demande aux touristes étrangers de rester en isolement dans leur chambre d'hôtel.
Bon. On est à l'étape où on le suggère. Là, depuis quelques heures, à l'aéroport de Dorval, c'est très, très clair. On a même des gens de la santé publique qui le répètent. Donc, on suggère aux touristes américains de s'isoler pour 14 jours. Bon. Maintenant, est-ce qu'on peut l'exiger? Ça pourrait être fait avec la collaboration du gouvernement fédéral, mais on n'est pas rendu là.
Je sais pas si vous voulez ajouter. Oui, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, on va monitorer là, ces éléments-là. Je pense qu'aussi, avec ces recommandations-là, j'ai l'impression que plusieurs personnes qui pensaient venir au Québec vont reporter leur voyage parce que venir pour s'enfermer dans un hôtel, c'est pas très agréable. Puis, à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle une norme sociale qui s'installe. Je pense, comme le dit le premier ministre, on évalue la situation. Je vous dirais que les fermetures aux frontières vont avoir un impact probablement important. Il y a des gens qui vont venir qui sont des ressortissants canadiens et québécois. On les attend. Et donc, moi, je pense qu'il faut évaluer. Mais s'il faut, à un moment donné, particulièrement au moment où il y aura de la circulation, je vous dirais qu'on commencerait dans un pic ou etc., ou qu'on aurait identifié, par exemple, un pays, puis là, je pense que ça m'étonne parce que ça vient de partout dans le monde, on pourra évaluer la situation.
Une autre question. Les travailleurs de la construction, entre autres choses, je comprends que vous voulez accélérer les chantiers de construction, etc., là, mais il y a des travailleurs de la construction qui s'inquiètent du fait qu'eux rentrent au travail, les employeurs ne les empêchent pas de rentrer au travail, et il y a quand même des échanges d'outils, il y a des contacts. Est-ce que ça représente un risque? Ou est-ce qu'on a...
De façon générale, je vais peut-être laisser pour M. Arruda pour les outils, là. Mais actuellement, les entreprises fonctionnent. On demande aux gens, quand ils ont des collègues, d'être à 1 ou 2 mètres des autres personnes. Bon, les gens de la construction, ils n'ont que travail à l'extérieur, ils n'ont que travail à l'intérieur, donc ça s'applique à eux autres aussi.
Mathieu Dion, Radio-Canada.
Bonjour. Est-ce qu'il existe des assises légales pour intervenir, pour revenir à la question du goût, pour intervenir auprès de quelqu'un qui serait imprudent, qui aurait... supposons un coronavirus et qui ne ferait pas attention, là. Un peu comme ça peut exister dans le code criminel avec ceux qui vont cracher sur quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il existe des assises légales?
C'est un pouvoir qui est donné au directeur de santé publique de la région de la personne. C'est comme dans certains cas de tuberculose contagieuse qui peuvent transmettre la maladie à d'autres. À ce moment-là, on peut décréter l'isolement obligatoire de la personne. Puis il y a même des maladies qu'on est obligé de traiter, comme la tuberculose, qui est la seule maladie, mais ici, on n'a pas de traitement. Donc, on a des pouvoirs légaux. Si on avait, par exemple, l'information que quelqu'un qui est malade, qui se promène partout puis qui contamine tout le monde, là, on a des pouvoirs légaux. Dans le cadre des enquêtes épidémiologiques, on a tous les cas. Donc, on sera en mesure d'identifier ça et d'intervenir, ce qui voudrait dire qu'on pourrait isoler la personne dans une chambre à l'hôpital de force. Okay.
Est-ce qu'Ottawa prend trop de temps pour annoncer ses mesures économiques?
Non, écoutez, il y a des discussions qui ont lieu. C'est peut-être pas simple. Évidemment, on a pris les devants concernant les travailleurs qui ne seront pas couverts par le nouveau programme d'assurance-emploi. Mais M. Trudeau me dit hier que ça serait d'ici 2-3 jours. Donc, je me dis d'ici une journée ou deux. Travaille fort sur l'arrimage pour les entreprises entre la BDC et Investissement Québec. J'espère être capable d'annoncer ça rapidement.
Charles Le Cavalier, le Journal de Québec.
Bonjour. Je reparle de l'isolement volontaire. Là. Il y a plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux de gens qui s'inquiètent que des gens dans leur famille, des amis ne respectent pas l'isolement volontaire. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire dans cette situation-là, M. Arruda, si on constate qu'un proche, qu'un ami ne respecte pas l'isolement, va dans des lieux publics, va prendre le métro, par exemple?
Des gens qui sont venus de voyage, c'est ça? Écoutez, je pense que on n'est pas rendu à la délation et la Gestapo de ça. C'est des éléments de conviction. Et je rappelle aux gens là, l'importance pour laquelle on fait ça. Imaginez-vous là, qu'on finit parce qu'on fait des enquêtes, maintenant on peut des choses, puis qu'on est en train de voir capable d'identifier qui a été la personne qui l'a fait. J'aimerais pas ça, moi, apparaître dans une liste que les journalistes pourraient finir par trouver parce qu'ils seraient les éléments. Fait que je pense qu'on fait appel encore. Je veux dire, par contre, il faut voir une chose. Là. Si quelqu'un est revenu de voyage puis qu'il y a des symptômes, OK, même s'il y a une petite proportion qui peut être transmise avant d'avoir des symptômes, bien là, à ce moment-là, il faut vraiment augmenter le ton, si vous me permettez, et faire valoir. Mais je peux vous dire, là, pour une personne qui a un bon jugement, qui n'a pas une problématique de santé mentale ou autre que ce soit, parce que ça, il faut aussi s'occuper de ces populations-là, puis on va faire des interventions spécifiques. C'est véritablement, puis c'est démontré, hein, que c'est à travers le discours et la discussion qu'on obtient les meilleurs objectifs. Les chasses à l'homme, les ventes de cette nature-là, habituellement, ça a des effets très pervers. Mais je veux juste vous dire là que, par contre, quelqu'un qui revient de voyage puis qui a des symptômes, je pense que comme citoyen, c'est inacceptable qu'on ne consulte pas et qu'on ne suive pas les consignes. Quelqu'un qui est asymptomatique devrait quand même s'auto-isoler, mais surtout quelqu'un qui est symptomatique, je pense qu'il cause de grands risques d'avoir éventuellement quelque chose. Puis je suis pas dans l'univers de juridique civil, là, mais si on est capable de faire la démonstration que quelqu'un, par un comportement d'ordonnancé que j'ai ordonné de ne pas le faire, puis qu'il l'a fait, puis qu'il a contaminé quelqu'un, je ne sais pas comment il va pouvoir s'en sortir si jamais il y a une poursuite au point de vue civil. Là.
Mais au-delà de l'aspect légal, là, moi, ce que je veux dire aux gens, aux Québécois, là, c'est sérieux. Si vous revenez de voyage, vous avez des symptômes, puis que vous transmettez le virus à quelqu'un, puis qu'éventuellement ce quelqu'un-là meurt, bien, vous allez avoir ça sur votre conscience toute votre vie. Là. C'est comme ça qu'il faut le voir, là.
Sur la durée de l'isolement, mais pas nécessairement de l'isolement volontaire, mais on parle de fermeture d'école, les fermetures de commerce et tout. M. Legault, vous nous avez déjà parlé de mois. On le sait qu'en Alberta, par exemple, ils ont carrément, je pense, annulé l'année scolaire. Dans l'État de New York aussi, ils ferment les écoles. Ils disent on va se revoir en avril, mais ça se pourrait que ça rouvre juste en septembre. Est-ce que vous êtes en train de préparer des plans pour, justement, dans les universités, les cégeps, les écoles secondaires, les écoles primaires, sur qu'est-ce qu'on va faire si ça se prolonge?
Évidemment, là, quand on gère bien une crise, il faut avoir différents scénarios. Donc, dans les scénarios qu'on a, oui, c'est possible. Il y a un scénario un peu plus pessimiste qui nous amènerait jusqu'à l'automne, jusqu'au mois de décembre. Donc, il faut pas exclure ça. Mais actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes. Là. Je pense qu'il n'y a pas personne, même les plus grands spécialistes dans le monde, qui sont capables de dire ça va-tu durer 2 mois ou ça va durer 1 an. Il y a différents scénarios, puis nous, ben, il faut être prêt pour chacun de ces scénarios-là.
Mais ma question plus spécifique, c'est est-ce que, dans le fond, le réseau scolaire est en train de se préparer pour faire de l'école à la maison, si jamais ça se prolonge?
Pas pour l'instant. Il n'est pas là.
Merci. Jocelyne Richer, La Presse canadienne.
Oui, bonjour à tous. J'aimerais savoir si vous songez à resserrer la directive sur les rassemblements intérieurs avec 250 personnes. M. Trudeau, je parlais ce matin, ouais, peut-être 50 personnes. M. Trump, aux États-Unis, parle maintenant de 10 personnes. Est-ce que c'est revu à la baisse ou pas?
Bien, écoutez, moi, ce que je dis aux gens, là, c'est qu'à moins que ça soit absolument nécessaire, pas de rassemblement. Que ça soit 10 ou que ça soit 250, là, pas de rassemblement.
Pour ce qui est des interdits que vous avez énoncés depuis plusieurs jours, de visites, etc., comment on fait pour appliquer ça, pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de délinquants? Est-ce que vous songez à des amendes, à des sanctions? Est-ce que la police pourrait intervenir? Comment vous voyez ça?
Écoutez, à partir du moment, je le disais tantôt, à partir du moment où ce virus-là a déjà causé la mort de personnes, surtout des personnes plus âgées,
semble qu'on n'est pas obligé de parler d'amende. Il me semble que toute personne responsable doit comprendre que le virus est dangereux, puis il faut tout mettre sur notre bord pour ne pas transmettre ce virus-là. Puis souvent, les personnes porteuses du virus ne savent pas si elles sont porteuses du virus, mais comme l'a dit le Dr Arruda, si la personne revient de voyage, puis en plus elle a des symptômes, bien là, c'est zéro risque qu'elle doit prendre.
Isabelle Porter, Le Devoir.
Oui, bonjour, M. Legault. Vous avez dévoilé un programme pour les travailleurs vulnérables hier. Je sais qu'il y a des choses qui s'en viennent du côté d'Ottawa et pour les entreprises, mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour les travailleurs autonomes qui subissent des pertes de revenus, mais n'ont pas nécessairement de symptômes?
Oui. Écoutez, ce qu'on me dit du côté d'Ottawa, c'est que c'est quelque chose qu'on regarde très sérieusement. Donc, évidemment, on va attendre de voir ce qui va être annoncé, mais ce que je comprends, c'est que l'Ottawa pourrait inclure les travailleurs autonomes dans leur programme qu'ils vont annoncer d'ici une journée ou deux.
On doit s'attendre à un élargissement de l'assurance-emploi ou à un nouveau programme?
Il faudrait poser la question à M. Trudeau.
Pouvez-vous rassurer ces personnes-là, peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes?
Moi, ce que je veux dire aux personnes, là, c'est pour ça qu'on était généreux en donnant le maximum d'assurance-emploi hier, 573 $, c'est que si vous avez besoin d'être isolé, s'il vous plaît, isolez-vous, puis n'hésitez pas pour des raisons financières. Si jamais le fédéral ne couvre pas, on va le couvrir.
J'ai une question par courriel d'une collègue qui fait du télétravail pour le Journal de Québec, Geneviève Lajoie, et qui concerne un sujet qui a été abordé tout à l'heure, soit celui de la construction, puisque la ville de Boston vient d'annoncer qu'elle va fermer donc les chantiers de construction pour freiner la propagation du virus. Donc, est-ce que c'est une possibilité que vous pourriez avoir?
On n'est pas là actuellement.
Et est-ce qu'à votre avis, à ce moment-ci, là, les chantiers de construction sont sécuritaires?
Écoutez, oui.
Parfait.
Si on se tient à 1 ou 2 mètres des autres personnes.
À cette condition-là. Maintenant, Fanny Lévesque, La Presse.
Oui, M. Arruda, évidemment, on a mentionné qu'il y avait certains délais pour avoir des tests et ensuite recevoir les résultats. Ça devrait être amélioré dans les prochains jours, j'ai bien compris ça. Mais est-ce que il est probable qu'on se retrouve en ce moment avec un nombre de cas confirmés qui est en décalage complet avec le nombre de cas réels en circulation ou dans la population en ce moment?
C'est clair, c'est comme ça partout dans le monde, parce que il faut que vous compreniez que des gens qui n'ont pas de symptômes n'iront pas consulter. Il y a toujours des gens asymptomatiques. Heureusement, ils peuvent transmettre. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, des fois, on ne peut le pas savoir qui me l'a donné. Okay? Par contre, c'est comme ça partout, puis je vais vous dire, même à un moment donné, quand il va y avoir tellement de circulation dans la population, que toute personne qui va se présenter comme une grippe ou un rhume, puis on va être sorti de la saison de la grippe, va être considéré comme un cas. Prenons l'exemple, vous avez un cas, le père attrape la maladie, la transmet à sa conjointe qui transmet aux enfants en même temps. Dès que le père est positif, si les gens qui vont être isolés le font, la maladie, pas besoin de faire de test pour le confirmer. C'est comme ça qu'on fait dans toutes les situations. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'au début, on va tester. On augmente la capacité de façon importante au cours des prochains jours. OK? Puis, en fonction de ce qu'on va surveiller, on va aussi choisir les types de catégories. On va lister qui a accès aux tests selon des critères scientifiques. C'est qu'on va le faire à ceux qui ont le plus de bénéfices, puis ceux que ce n'est pas nécessaire. Surtout, ce qu'il faudrait éviter, c'est tester des gens asymptomatiques parce qu'ils ont peur. Là, à ce moment-là, c'est un test gaspillé. Et donc, tout ça va se faire avec une science, avec des critères qui sont établis par nos experts, à la fois cliniciens et gens de santé publique.
Donc, vous dites qu'il est...